Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Le procès d'Oscar Wilde.
Il n'y a pas de honte à se faire plaisir, Monsieur Gray. L'homme cherche seulement à être heureux. Mais la société veut qu'il soit bon. Or, quand il est bon, l'homme est rarement heureux, alors que quand il est heureux, il est toujours bon.
Les aphorismes d'Oscar Wilde ont fait une part de sa réputation. Il en truffait sa conversation et ses conférences, car il a multiplié les conférences. En 1882, il tint un an de tournée aux États-Unis de salle en salle. C'est que ses revenus tenaient à sa célébrité. Mais l'écrivain excella dans le conte et la nouvelle, fut un grand critique, un auteur important au théâtre, et sans jamais se donner l'apparence d'un travailleur. « Je traitais l'art comme la réalité suprême, ma vie était simplement une fiction de plus. » Alors qu'il se voyait en messager du beau, il fut rattrapé par la réalité impitoyable de l'Angleterre victorienne qui supportait mal son comportement. Au début de 1895, il était encore « Sa Majesté des Planches », triomphant avec l'importance d'être constant. Le printemps n'était pas achevé qu'il se retrouvait aux travaux forcés pour 2 années qui le brisèrent. Les secrets de sa vie sexuelle, soudain criés sur les toits, avaient fait l'objet d'un procès à grand spectacle, qu'il avait d'ailleurs déclenché lui-même, s'y jetant comme dans un piège. Sans doute étant parvenu au plus loin de la provocation, attendait-il que survienne quelque chose. Il mourut en 1900 à Paris, sans avoir pu revoir ni l'Angleterre ni ses enfants, marié dorénavant avec la pauvreté. L'humilité, après la gloire, fut sa dernière conquête. Il faut avoir tout perdu pour savoir qu'on la possède. Peut-être eut-il raison de ne pas fuir la justice anglaise. S'il n'avait pas connu ce destin tragique, sa fortune posthume ne serait pas ce qu'elle est.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Merlin, Merline, Hollande, Hollande sans E.
Hollande, strictement sans E.
Bonjour. On expliquera d'où vient ce nom dans le courant de l'émission. Et sans ce destin tragique, l'exposition qui vient d'ouvrir au Petit Palais à Paris, la première qui ait jamais été consacrée à Oscar Wilde par la capitale, n'aurait pas autant de succès qu'elle en a. Vous êtes l'un des deux commissaires de cette exposition, et puis vous êtes aussi le petit-fils d'Oscar Wilde. J'ai toujours préféré, cependant, dites-vous, dire qu'Oscar Wilde était mon grand-père, plutôt que de me présenter comme son petit-fils. Énigmatique.
Pas tout à fait. J'ai aussi dit que je me sens plus le fils de mon père que le petit-fils de mon grand-père, que je n'ai jamais connu d'ailleurs. Mais dire que je suis le petit-fils d'Oscar Wilde, c'est de le mettre en second plan et de moi en premier. Et faire quelque chose comme ça avec un homme de la stature d'Oscar Wilde, c'est presque impossible.
Ce qui est bien dans votre famille, c'est que tous les squelettes sont tombés du placard la même année, 1895.
D'un seul coup, avec un grand crash.
Vous avez consacré d'ailleurs un livre aux éditions Stock aux minutes des procès de 1895. Disons, quelle est la situation cette année-là? C'est seulement, on va parler d'art, hein, on va pas parler que de la vie sexuelle d'Oscar Wilde, mais commençons quand même par sa vie sexuelle. C'est seulement quand la trentaine a sonné, semble-t-il, qu'il a commencé à avoir des relations homosexuelles.
On dit que son premier relation sexuelle homosexuelle, c'était avec quelqu'un qui est resté grand ami avec lui jusqu'à la fin de sa vie, et aussi son exécuteur littéraire après sa mort, Robert Ross. Le jeune Robbie l'a connu, paraît-il, 1886 ou 1887, et c'est à partir de ce moment-là qu'il avait su que sa sexualité était ailleurs que, disons, uniquement avec les femmes.
Et dans le mariage, il avait 2 enfants, dont votre père. En 1895, il s'affiche depuis longtemps, 3-4 ans, avec un jeune aristocrate, Alfred Douglas, qui est le fils du marquis écarlate.
du marquis écarlate, comme il l'a dit. Oui.
Queensberry, un boxeur.
Screaming Scarlet Marquis.
Un homme qui s'accompagnait souvent de boxeurs et qui avait lui-même formulé des règles de boxe.
Des règles du boxe.
Donc il fallait pas rigoler avec Queensberry, qui cherche d'ailleurs à provoquer un éclat public pour rompre la relation de son fils avec Oscar Wilde. Cet éclat public, n'ayant pu le provoquer à la première de l'importance d'être constant, début de 95, il le provoque en envoyant une carte au club où Oscar Wilde a ses habitudes. Et Ross, que vous citiez, l'amant historique, et Alfred, venu tout exprès quand il a eu mention de cette carte infamante, se retrouvent pour discuter de la situation avec Oscar Wilde.
Pour Oscar Wilde, Macro, c'est ça ? Macro est sodomite.
Il a dû vouloir écrire sodomite. Il est illettré, ignorant.
C'est odieux.
Nous le tenons, Roby. Il a écrit cette carte ici, le concierge l'a vu. Nous pouvons le poursuivre en diffamation. Nous avons une preuve suffisante.
Oscar, ne faites pas ça. Il ne faut surtout pas que... Ça pourrait...
Nous avons enfin l'opportunité de le traîner en justice. Ainsi, le monde découvrira l'immondice et la raclure qu'il a pu être envers moi, ma mère et mes frères.
Mais il plaidera et se justifiera.
Il ne peut rien prouver. Mais nous, oui. Nous prouverons qu'il est l'homme le plus abject que la Terre ait porté.
Je suis persuadé que si Oscar acceptait de s'éloigner quelques mois et qu'il vivait de ses droits d'auteur jusqu'à ce que ça se calme...
De quel côté,
vous ? Bosie ! S'il va devant une cour, Oscar sera obligé de mentir, de se parjurer. La vérité sera dévoilée au grand jour et le résultat sera un vrai désastre.
Roby, tu es un amour, mais je ne peux décemment pas quitter le pays.
C'est le film de Brian Gilbert avec Stephen Fry dans le rôle de Wilde qu'on a peu entendu là, parce que il voit s'affronter ses deux amis. Alors, Roby, Ross prône la prudence et Douglas, Bosie prône l'attaque parce que Bosie, Douglas aime Oscar Wilde, mais il hait davantage son père.
C'est vrai, c'est vrai. Et si ce qui s'est passé, vous avez dit tout à l'heure que le marquis avait envoyé une carte au club d'Oscar. Effectivement, ce qu'il avait fait, il avait déposé la carte. Il avait déposé la carte sans enveloppe. Et c'était le fait de l'avoir déposée sans enveloppe qui le rendait publié aux yeux de la loi. Parce que même si c'était seulement le portier du club qui l'a vu, c'était publié. Et le portier l'a mis dans une enveloppe. Une fois qu'Oscar avait reçu la carte, il avait demandé au jeune Ross de venir le voir ce soir même. Et dans sa lettre, qui existe toujours, à Roby, il dit « Et j'ai demandé à Bosie de venir demain. » Et une fois Ross arrivé à 11h du soir à l'hôtel où Oscar séjournait, Bosie Douglas était déjà là. Et le mal a été fait.
C'était dangereux dans la société victorienne de s'afficher, de poser aux sodomites, ne parlons pas tout de suite, des actes qu'il a pu commettre. D'ailleurs, au procès, enfin, il y a une audience de police, et puis, pour être précis, il y a un procès, deux procès. On voit tout ça dans votre livre aux éditions Stock, Merlin Holland. On voit que les premières incriminations portent sur les déclarations, l'œuvre même aussi d'Oscar Wilde. Il pose, je répète, aux sodomites, dit la famille du marquis de Queensberry. Ces maximes sont jugées extrêmement dangereuses.
Une idée qui n'est pas dangereuse ne mérite pas d'être appelée. Une idée, disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde.
Attendez, monsieur, j'ai ici l'un de vos morceaux choisis. La vilenie est un mythe inventé par certains petits bourgeois afin de justifier quelques attirances douteuses. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Mes écrits ne sont pas pure vérité.
Si une personne dit la vérité, cette personne est sûre d'être démasquée un jour ou l'autre.
C'est un plaisant paradoxe, mais je ne fais pas grand cas de ce genre d'axiome.
C'est bon pour la jeunesse ?
Tout ce qui peut stimuler est bon. Quel que soit l'âge.
Que ce soit moral ou immoral.
Mais il n'y a rien de moral ou d'immoral, ce ne sont que des pensées.
Passons à la pensée suivante. Le plaisir est la seule chose qui vaut d'être vécue.
Je crois que la réalisation de soi est la chose primordiale de notre vie. Alors autant y accéder par le plaisir plutôt que par des souffrances absurdes. Je rejoins le point de vue des anciens sur cette question. Les Grecs.
Et le public rit parce qu'il est venu nombreux. L'immoralité est un mythe inventé par les honnêtes gens pour expliquer la curieuse attirance qu'exercent les autres. Il y a un côté procès du Carlton de Lille, vous savez, avec Dodo la Saumure et Dominique Strauss-Kahn. Complaisance du public.
Complaisance du public, d'un côté, je trouve un petit peu hypocrite. D'un côté, le public victorien condamnait rendement tout ce qu'avait fait Oscar Wilde, mais de l'autre côté, il s'intéressait énormément dans les journaux de voir les comptes rendus chaque jour du procès d'Oscar Wilde. Plus ça change, quoi.
S'il vient, s'il ne se dérobe pas, s'il ne va pas vivre à l'étranger de ses droits d'auteur, c'est aussi qu'il sait que parmi les chefs d'incrimination, il en est peu, mais important, qui concerne son œuvre, et notamment Dorian Gray.
Absolument.
Le portrait de Dorian Gray, l'histoire du peintre qui, pris d'une affection très grande pour un modèle, en fait un très beau tableau sur lequel vont se transférer toutes les mauvaises actions de Dorian Gray par une sorte de pacte diabolique qu'il a conclu.
Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais le plaidoyer de justification, c'est-à-dire le contre-plaidoyer de Queensberry, contient 13 instances de relations avec les jeunes maîtres chanteurs, les jeunes prostituées de Londres, mais à la fin, on s'attaque à son œuvre. Justement, on dit, il a publié en 1890 un livre qui s'appelait Le portrait de Dorian Gray, qui était un livre sodomite qui décrivait les passions de personnes de nature tout à fait anormales, etc., etc. Et je pense que, ayant vu ce document qui justifiait la soi-disant diffamation de Queensberry, Oscar aurait dû se dire, on s'attaque à mon œuvre. Il aurait peut-être pensé, même, je le suppose, il s'est vu peut-être dans le cas de Baudelaire ou de Flaubert, presque 30 ans avant lui, dont l'œuvre a été attaquée cette fois-ci par l'État. Mais aussi, par exemple, comme Zola, avec la publication de Thérèse Raquin, la deuxième édition de Thérèse Raquin, Zola y a incorporé une préface précisément comme Oscar l'a fait avec Dorian Gray.
Le manuscrit de Dorian Gray est exposé dans l'exposition du Petit Palais. Et Queensberry n'avait pas vu le manuscrit, ni son porte-parole, Carson. Parce que entre la première publication en feuilleton dans une revue américaine et le manuscrit, il y a des différences. Il y a 500 mots
Il y a des différences. La presse en Angleterre s'est acharnée contre Oscar Wilde à la publication de la publication périodique en 1880 à cause des passages qui étaient d'une façon totalement inéquivoque homosexuels. Le moment où le peintre Basil avoue son amour pour le jeune Dorian Gray, je t'aimais à la folie, je n'ai jamais aimé une femme, peut-être je n'ai pas eu le temps, mais j'étais jaloux de tout le monde qui te parlait, c'était inéquivoque. Et l'année d'après, lorsqu'il a publié le portrait de Dorian Gray sous forme de livre un petit peu élargi, il avait supprimé ces passages, un peu de façon pas tout à fait caractéristique pour Oscar.
Grasset publie dans une version française une traduction d'Anatole Tomzak, la version manuscrite, la première, avant la publication en feuilleton aux États-Unis. Ça fait aussi partie de l'actualité Oscar Wilde. Quand commence le procès? Où en est votre grand-mère, Constance, l'épouse d'Oscar Wilde, et ses deux enfants, dont votre père?
C'est extrêmement difficile à dire. Je ne sais pas si avant le procès, elle a su. Elle a su ce que faisait son mari. Il y avait un moment, 2 ans avant, où Oscar et Constance ont pris des vacances à Norfolk. Et le jeune Douglas est venu les voir. Elle est repartie avec ses enfants, Douglas est tombé malade, et il y a une lettre de Constance à Oscar qui lui demande si Oscar veut qu'elle revienne soigner le jeune Douglas. Est-ce ça le comportement d'une femme qui est complaisante ou une femme qui ne sait rien du tout?
Assez compliqué les mariages.
C'est
de
extrêmement compliqué.
Victorienne en témoigne la pièce qu'a grand succès Oscar Wilde avait fait représenter le début de cette année-là, qui s'appelle L'importance d'être constant, et qu'on a ici dans la version filmée d'Olivier Parker.
Quel âge avez-vous ?
35 ans.
Un âge idéal pour se marier. J'ai toujours été convaincue qu'un homme désireux de se marier devait tout savoir ou ne rien savoir. Que savez-vous ?
Je ne sais rien, Lady Bracknell.
Je me réjouis de l'entendre. Je désapprouve totalement ce qui vient altérer l'ignorance naturelle. L'ignorance est pareille à un fruit exotique, délicat. Touchez-y, aussitôt il s'étiole. Quels sont vos revenus ?
Entre 7 et 8 000 livres par an.
En terre ou en placement ?
En placement avant tout.
Ah, voilà qui est fort bien. Vous avez une maison à Londres, j'espère. Une jeune fille d'un naturel simple et candide comme Gwendolen ne saurait se voir obligée d'aller résider à la campagne.
Oui, bien sûr, je possède aussi une maison à Belgrave Square.
Quel numéro ?
Le 149.
Le côté qui n'est pas à la mode. Je m'en serais douté. Cependant, on peut aisément changer cela.
Vous voulez dire la mode ou le côté ?
Les deux, si nécessaire, je suppose. Vos parents sont-ils en vie ?
J'ai perdu mes deux parents.
Perdre un parent, Monsieur Worthing, peut être considéré comme une infortune. Les deux, par contre, c'est de la négligence.
En vérité, Lady Bracknell, j'ai dit avoir perdu mes parents, mais il serait plus juste de dire que ce sont mes parents qui m'ont perdu. En fait, j'ignore tout de ma filiation. J'ai été trouvé.
Trouvé ? Je ne saurais trop vous conseiller, Monsieur Worthing, de tenter de trouver des ascendants aussi vite que possible et de faire de sérieux efforts pour produire au moins un parent de l'un ou l'autre sexe avant que la saison ne soit terminée.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Le procès d'Oscar Wilde avec Merlin Holland. C'est cette même année, 1895, que les Proms, on a entendu l'œuvre fétiche d'Elgar, un peu plus tardive, 1901, ont été créés en l'honneur de la reine Victoria, que Wilde admirait beaucoup d'ailleurs. Hein.
Tout à fait, oui. Mais il a même dit qu'il y avait trois femmes dans sa vie qu'il aurait bien aimé épouser, Lily Langtry, Sarah Bernard et la reine Victoria.
Oui, enfin, le cadre législatif qui s'imposait pendant le règne de la reine Victoria était pourtant assez draconien. En 1885, une loi dont il va être la victime à l'issue de son procès entend lutter contre le proxénétisme des jeunes filles de la classe ouvrière.
Oui, oui.
Et aussi contre l'homosexualité par... hasard, inadvertance.
Au moment où la loi devait passer par le Parlement, il y avait un député qui s'appelait Henri de la Bouchère, d'ailleurs ami de Wilde, pas très proche, mais quand même un ami de Wilde, qui avait proposé un amendement à la loi. Tard dans la nuit, à 11h du soir, et c'est passé tout simplement comme ça, pour criminaliser les relations entre les hommes.
Autant dire qu'il risquait gros quand le porte-parole Carson, marquis de Queensbury, parce que le marquis contre-attaque à mesure que le procès avance, détaille les relations tarifées que Wilde aurait eues avec des jeunes gens sans façon.
Depuis combien de temps connaissez-vous Alfred Taylor ?
Environ 2 ans, 2 ans et demi.
Est-ce un ami intime ?
Eh bien, je ne dirais pas ça, non.
Mais vous êtes souvent allé chez lui ?
Oui, peut-être, 7 ou 8 fois, je ne sais pas.
Saviez-vous que M. Taylor s'habillait en femme quand il était dans l'intimité ?
Non.
Saviez-vous qu'il était connu pour présenter des jeunes hommes à des hommes plus âgés?
Je n'en ai jamais entendu parler.
Vous a-t-il présenté des jeunes hommes?
Oui.
Combien?
Je ne sais pas, 5.
Quel était le métier de ces jeunes?
J'avoue que je l'ignore.
Oh, alors je vais vous le dire, monsieur Wilde. Vous avez rencontré un certain Charles Parker, si je ne m'abuse.
Oui.
Charles Parker est valet de chambre. Vous avez aussi fait la connaissance de son frère.
Oui.
Il est garçon d'étage.
Je n'ai que faire du métier de ces jeunes gens. Je les aimais bien. Et ce que j'aime surtout, c'est civiliser notre communauté. Je n'admets pas les différences sociales, quelles qu'elles soient. Pour moi, la jeunesse, oui, la jeunesse est une chose si merveilleuse que je préfère discuter avec un jeune homme pendant une ou deux heures que subir un interrogatoire devant une cour.
Mais qu'est-ce qui est le plus scandaleux, Merlin Holland, de coucher hors de son sexe, si je puis dire, ou hors de sa classe?
Pour Carson, je pense que c'était presque hors de sa classe. Transgresser les barrières de la société était pour lui presque aussi choquant que d'être homosexuel. Et ça se voit dans le contre-interrogatoire qu'il mène contre Wilde.
Taylor, qui est cité là, qui est dénoncé par les Parker, qui sont cités aussi, Taylor ne témoignera jamais contre Wilde. Et il se retrouvera embarqué en même temps que lui dans la même condamnation.
Oui, c'était un comportement très honorable, ça il faut le dire. Mais le moment clé du procès, évidemment, c'est le moment où Carson lui demande s'il avait jamais embrassé un jeune serviteur. L'avez-vous déjà embrassé? Ah non, oui, mon Dieu, pas, je l'ai pas fait, il était tellement laid. Une plaisanterie de trop, et il se met lui-même en prison.
Condamné à 2 ans de prison, même de travaux forcés, qui avait un régime très sévère au début, l'interdiction d'écrire, sauf les lettres qui sont dans le quota, quand il pourra avoir une table, un écritoire, une plume, un très beau texte, un monologue destiné à Alfred Douglas, qui lui est parti sur le continent, qui s'appelle De Profundis.
Une lettre d'amour, de reproche, de un petit peu une apologie pro vita sua, en quelque sorte. Il n'avait jamais écrit un journal intime, mais c'est le De Profundis, c'est le plus près qu'on arrive à un journal intime d'Oscar Wilde.
Il ne reverra jamais l'Angleterre, il va vivre en France, essentiellement Berneval en Normandie, l'hôtel rue des Beaux-Arts, qui depuis fait commerce du souvenir d'Oscar Wilde. Il s'appelait Sébastien Melmoff, c'était un de ses pseudonymes. Sébastien, il y a un Saint-Sébastien dans l'exposition du Petit Palais.
Il y a un Saint-Sébastien qui est exposé, je crois, me dire la vérité, pour la première fois, ça provient de Gênes, de la Palazzo Rosso de Gênes, amené même par le directeur lui-même, qui était ravi de pouvoir l'exposer dans le cadre d'une exposition sur Oscar Wilde.
Saint-Sébastien qui est le patron des homosexuels. Enfin, les homosexuels ont décidé que la Sainte Église pouvait leur accorder ce rôle.
Mais Oscar l'a vu pendant un voyage en Italie en 1877. Il a commenté longuement, et c'est de ce saint-là qu'il a pris le pseudonyme Sébastien. Et Melmoth, c'est d'un livre qui avait été écrit son grand-oncle dans les années 1820, Melmoth the Wanderer.
Il est marié à la pauvreté maintenant.
Il est marié à la pauvreté, mais il a dit, il a gardé son sens d'humour jusqu'à la fin de sa vie. Il a écrit dans une lettre à un ami, comme le Saint François, je suis marié à la pauvreté, mais dans mon cas, le mariage n'a pas de succès.
En 1900, il meurt, il est enterré dans un premier temps à Bagneux, avant que ne lui soit construit le fameux tombeau révéré par tant d'admirateurs du Père Lachaise, Paul Fort, le prince des poètes, enfin il avait été nommé prince des poètes, ad vitam aeternam, était de cet enterrement.
Quand nous sommes partis vers le cimetière, nous étions 13. Et quand nous sommes arrivés à Bagneux, à travers une petite pluie battante, nous n'étions plus que 6. Il est arrivé une chose tragique là, qui était un peu héroïque-comique plutôt. Lord Douglas prit de sanglots lorsque on déposa au fond de sa tombe, de sa fosse, Oscar Wilde, il s'est jeté dedans. C'était très embarrassant, très ennuyeux, très bizarre. Nous avons cru d'abord qu'il avait glissé, mais pas du tout. Il s'est jeté sanglotant et seulement je lui ai repris la main, ainsi qu'un des fossoyeurs. Et enfin, nous l'avons, lui, tiré tout boueux. Et pendant, il était un peu cigare de luxe, n'est-ce pas? Et il était bien abîmé. Quand nous repartîmes, nous n'étions plus que ma femme, Madame Merrill, lui, le boueux, Xouglas, Robert Ross et moi. Nous sommes loin des enterrements de Hugo et aussi glorieux de Verlaine.
Paul Fort en 1953, 53 ans après.
C'est un très beau français, mais je pense que le passage du temps a dû colorer ses souvenirs.
Mais Douglas se cherche toujours un rôle tragique, alors il se jette dans la tombe.
Je ne crois pas que c'est vrai. On le dispute de toute façon. Mais Douglas a passé le restant de sa vie à lutter contre les gens qui lui ont imposé ce rôle de mauvaise muse à Oscar Wilde, qu'il avait abandonné. Il n'a jamais abandonné Oscar. Il lui avait donné de l'argent dans ces dernières années, qu'il a pu prouver d'ailleurs. Mais mon père disait toujours que si Douglas s'était consacré à faire de la poésie, il était très bon poète finalement. Il avait écrit des sonnets qui étaient aussi beaux que ceux d'Oscar.
Père, dites-moi, Merlin Holland, votre père et son frère, votre oncle,
oui.
Lequel meurt au front en 1915. Qu'est-ce qu'il advient d'eux? On les verrait bien éloignés de l'Angleterre.
Mon oncle Cyril avait un an et demi de plus que mon père, et c'est cet un an et demi qui a fait toute la différence. Cyril a dû savoir assez tôt ce qu'avait fait son père. Mon père, jusqu'à l'âge de 18 ans, pensait qu'il était allé en prison à cause des dettes. Et Cyril a fait une carrière en tant que soldat professionnel. Il avait écrit à mon père vers 1912 que le restant de sa vie, enfin sa vie à partir du moment où son père est décédé, était consacrée à montrer au monde qu'il était un homme. Qu'il y avait pas de question de décadence, d'être efféminé. Il voulait montrer cela. Et mon père me disait toujours que il était probablement décédé en accomplissant quelques actes de bravoure.
J'ai entendu un enregistrement de votre père qui disait que vous, le petit-fils, vous pourriez peut-être relever le nom de Wilde, mais vous préférez porter ce nom difficile à porter pourtant, de Holland.
Je préfère le porter, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis plus le fils de mon père que le petit-fils de mon grand-père, mais en plus, si je le porte et si je dois vous l'expliquer, ça prend une minute, je peux dire que c'est une reproche à l'ère victorienne, à l'hypocrisie de cette ère qui a envoyé mon grand-père en prison, tout simplement, pour avoir été homosexuel.
Merci à vous, Merlin Holland. Vous êtes le co-commissaire de l'exposition du Petit Palais, consacrée jusqu'au 27 janvier 2017.
Jusqu'au 15.
15 janvier jusqu'au 2017, 15. Merci de la précision. À Oscar Wilde, l'impertinent absolu, c'est le sous-titre de l'émission. De l'exposition. L'émission, elle a été préparée par Eline Kahn et Lulesco, avec Valérie Aistaraï à la réalisation, Arnaud Caillet à la technique. Petit panégyrique du commandant Cousteau dans La Tête au Carré dans un instant.
Oui, portrait du commandant Cousteau avec Lambert Wilson dans un instant. Yves Paquelet et François Sarnaud. L'Odyssée sort demain sur les écrans, Jean.
Merci Mathieu, à tout à l'heure. Et demain, me direz-vous, eh ben c'est l'attentat du Petit Clamart, août 1962, avec Jean-Noël Jeannet, qui consacre un livre brillant au sujet. C'est après l'attentat du Petit Clamart que le général de Gaulle a eu l'idée de génie de lancer un référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel, parce qu'il s'était dit que la question de sa succession commençait à se poser sérieusement.